France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série de cette semaine consacrée à la vengeance, aujourd'hui la vengeance comme parcours initiatique et comme héroïsme. Nous allons parler de la vengeance comme élan traversant une vie qui se rêve héroïque. Bien au-delà de la quête d'une place dans la société, cette vengeance-là engage une invention de soi sans cesse relancée. C'est un appel vers la grandeur qui tire aussi vers le haut la notion d'ambition. Ainsi pour Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, il s'agit là, écrit le philosophe Michel Guérin, d'audace et de révolte, d'affirmation de la légitimité du désir, non en tant qu'il menace ou convoite, mais en tant qu'il élève, non comme revendication d'appétit, mais comme puissance de civilisation. Une insatisfaction hyperactive, dit encore Guérin, le souci d'honorer, je le cite encore, le sentiment de ce que l'on se doit. Cette vengeance-là, véritable parcours initiatique héroïque, ne cesse de poindre dans les romans de l'après-Napoléon, c'est-à-dire aussi de l'après-Révolution française. Stendhal lisait cette période comme une retombée de la lumière à la boue, expression qui a donné son titre à un écrit du philosophe Miguel Abinsour. Chez Balzac aussi est présente l'envie de se venger de toute cette médiocrité. De même, chez Alexandre Dumas, son Comte de Monte Cristo se venge à l'infini, tant de la jalousie que du soupçon de sympathie bonapartiste. Quelque chose dans tous ces héros vengeurs offense le vulgaire, expression de l'abbé Pirard à propos de Julien Sorel. Bonjour Michel Guérin.
Bonjour.
Vous êtes à Ici Provence, France Bleu, désormais renommée, à Aix. Alors vous l'aurez compris, après cette introduction, vos travaux m'intéressent beaucoup. Vous êtes philosophe et écrivain et j'ai cité ici votre Politique de Stendhal de 1982 au PUF, ainsi que votre essai de 2006 chez Actes Sud, La Grande Dispute, essai sur l'ambition, Stendhal et le 19e siècle. Bonjour Caroline Julliot.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeure de littérature française du 19e siècle à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et en 2023, vous avez publié aux éditions du CNRS Monte Cristo, le procès. Enfin, bonjour Andrea Del Longo.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeure de littérature française à la Sorbonne, spécialiste du roman du 19e siècle et notamment de l'œuvre de Balzac. Pour commencer cette réflexion sur la vengeance comme parcours initiatique et héroïque dans le roman de la première moitié du 19e siècle, je voudrais vous faire entendre un extrait de la critique littéraire Marthe Robert. En 1972, dans Roman des origines et origines du roman, celle-ci développait l'idée que le roman reconduit toujours quelque chose du désir de l'enfant de se penser comme n'appartenant pas vraiment à sa famille. La figure de l'enfant trouvé se repère dans certains romans, voire la figure plus active et vengeresse du bâtard qui lutte dans la réalité pour réparer un tort subi. Voici ce que Marthe Robert dit de la figure du bâtard au XIXe siècle.
La fortune du bâtard au siècle de l'histoire et du roman est proprement inconcevable sans la montée de Napoléon. L'aventurier sans naissance ni fortune, qui, en un rien de temps, se couronne lui-même, installe ses frères sur tous les trônes d'Europe qu'il a rendus vacants et se taille un empire dans une république toute neuve dont il est à peine citoyen, appartient au roman par toutes les fibres de sa personnalité. Il est roman de bout en bout, un roman qui se fait à mesure qu'il influence les événements de l'histoire et qui, pour la première fois à l'époque moderne, s'imprime en lettres de chair et de sang dans le tissu même de la réalité. Le petit homme insignifiant, qui se révèle assez fort pour changer son roman familial en instrument de puissance historique, a certes quelques raisons de s'écrier « Quel roman que ma vie !» Il eût pu dire mieux encore « Quelle vie que mon roman !» Il est effectivement le bâtard incarné, le renégat parfait qui bouleverse le monde en accomplissant sans scrupule ni remords ce que ses pareils osent à peine rêver. Aussi devient-il pour le bâtard contemporain l'inspirateur, le maître, l'idole qui n'écrase pas mais relève ses fidèles, et pour le roman moderne, un génie libérateur dont l'action même, aux confins de l'action et du rêve, recule comme jamais encore les limites de l'imagination. Napoléon n'inspire pas le roman au sens où Alexandre a inspiré le cycle du roman alexandrin, en procurant simplement aux faiseurs de contes une abondante matière épique et déjà élaborée, mais bien plutôt en ceci qu'il fortifie le romancier virtuel dans l'idée que tout est possible.
C'est Aloïs Guérin, un autre Guérin, qui prêtait sa voix à Marthe Robert. Michel Guérin, Julien Sorel se vit clairement comme un bâtard. Il renie la filiation avec son père, le vieux Sorel. Il vole vers d'autres cieux. Se vit-il comme le fils de Napoléon ou peut-être aussi le fils de Danton ?
Non seulement le fils de Napoléon ou le fils de Danton, mais il se vit également... Je cite la phrase, je garantis pas qu'elle soit parfaitement exacte, mais en tout cas le sens est très proche. Il dit à un moment, peut-être suis-je le fils de quelque noble, réfugié ou exilé dans nos campagnes par le terrible Napoléon. Donc vous voyez, double ajout et double atout. La fréquentation imaginaire, c'est essentiel pour Julien. Et il fréquente dans cette phrase deux personnages. D'une part le noble, donc oui, qui, d'une certaine façon, rachète sa naissance plébéienne, et d'autre part, le terrible Napoléon, le sublime, finalement, est dans le sillage de cette proposition. Donc, effectivement, Julien fait tout pour gommer sa naissance plébéienne. L'expression qui revient sous la plume de Stendhal, et d'ailleurs il prête cette qualification à Julien Sorel lui-même quand il se juge, et il se juge souvent, il est toujours témoin de lui-même, c'est qu'il est un plébéien révolté, variante, un paysan révolté. Ça apparaît également lorsque Julien, condamné à mort, s'adresse à ses jurés pour leur dire qu'effectivement, il est condamné parce que il est un plébéien et que eux sont des riches bourgeois qui ne tolèrent pas que, comme dit Stendhal, je crois que c'est dans Lucien Leven, que le rang rabaisse à chaque fois le mérite. Donc il y a chez Julien une revendication, une exigence, finalement, qui... comme telle est la valeur suprême, de faire passer le mérite, c'est-à-dire ce qu'on appelait aussi au XIXe siècle la question des capacités, avant toute autre chose, et en particulier avant le rang. Que ce oui. rang soit bas ou qu'il soit au contraire aristocratique.
Donc plus que la noblesse, l'aristocratie, ce qu'il vise, c'est la gloire, et la gloire d'un enfant de la plèbe, Napoléon, évidemment, c'est beaucoup plus important que tous les aristocrates. Et puis en même temps, il y a l'imaginaire de Mathilde de la Mole qui va voilà. le pousser, hein, puisque alors elle fait le lien avec Danton.
Avec Danton, oui, tout à fait. Elle dit à un moment donné, d'ailleurs, je crois qu'elle le dit à son père, s'il y a une révolution, je suis sûr pour lui d'un premier rôle. Donc effectivement, elle invite... par toutes ces manœuvres, parce qu'il y a des manœuvres de Mathilde, il y a une manipulation psychique en quelque sorte, une tentative en tout cas, et ça tombe bien, le terrain est favorable. Elle fait tout pour que Julien s'identifie aux deux modèles qu'elle lui présente. L'un, et c'est pas un hasard, c'est un frondeur, c'est Boniface de la Mole, le grand ancêtre, qui d'une certaine façon est au-delà des rois, puisqu'il a... poser en quelque sorte l'honneur de la féodalité au-dessus de tout, au-dessus de la royauté bourgeoise, au-dessus de la cour, et d'autre part évidemment Danton. Au fond, Julien, c'est l'ambitieux, mais l'ambitieux au sens où il porte en lui, comme le dit quelque part Malraux, une semi-doctrine. Alors bien sûr, c'est l'imitation de Napoléon, comme on parle de l'imitation de Jésus-Christ, mais il y a là-dedans quelque chose de plus fort, quelque chose de proprement sublime, qui consiste tout simplement à faire en sorte qu'on devienne ce qu'on veut être. Autrement dit, qu'on naisse un personnage qui n'était pas à l'origine. Qu'on efface d'une certaine façon la naissance biologique au profit d'une naissance imaginaire et évidemment beaucoup plus gratifiante. Et c'est ce que Julien réalise par sa mort. D'une certaine façon, l'amour de tête, c'est l'amour qui le conduit à la décapitation, mais c'est l'amour aussi qui monte à la tête. Et d'une certaine façon, à la fin, ben, comme disait Nietzsche, seul l'amour doit juger. Et c'est Madame de Rênal qui l'emporte définitivement dans son cœur, beaucoup plus que l'ambition.
L'amour de cœur, Madame de Rênal, contre en complément, parce que ça va ensemble, l'amour de tête de Mathilde, c'est dans une lettre de Stendhal lui-même qu'on trouve ces expressions. Alors, la Napoléon, et peut-être derrière la Révolution, ça ne hante pas aussi directement qu'on le sait le rouge et le noir, pas seulement le rouge et le noir de Stendhal, mais ça hante aussi l'univers d'Alexandre Dumas. Caroline Juliot, ce n'est pas un hasard si Edmond Dantès, futur comte de Monte-Cristo, a chuté, a été trahi, est allé pendant toutes ces années dans un cachot, parce qu'il y avait la jalousie autour de lui, c'était un flamboyant jeune homme, et parce qu'il était soupçonné de sympathie bonapartiste.
Oui, bien sûr, Napoléon, c'est vraiment le paradigme même de ce surhomme fatal dont le comte de Monte-Cristo est un des avatars les plus flamboyants, comme vous dites, et qui va être l'ancêtre des super-héros ensuite au XXe siècle. Donc, comme le dit très bien l'extrait qui a été lu de Marthe Robert, Napoléon, c'est celui qui montre, qui est une espèce de promesse, la promesse absolue du libéralisme, de tout est possible. On peut, la société, beaucoup de romanciers montreront que les choses ne sont pas si simples, mais la promesse du libéralisme, c'est qu'on peut tout réaliser. On peut partir de rien et arriver à tout. Et dans le Comte de Monte-Cristo, cette problématique-là, elle se retrouve non seulement chez Dantès, mais aussi chez ses ennemis. Ça qui est intéressant dans le roman, c'est que Dantès se réinvente en Comte de Monte-Cristo, donc devient cette espèce de figure héroïque, quasi surhumaine, cet agent qui se présente comme l'agent de la providence divine. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Villefort, le procureur du roi, qui renie son ascendance, puisque son père, et c'est pour ça qu'il envoie Dantès au cachot, son père est un ancien jacobin, un bonapartiste, il s'appelle Noirtier. Donc Villefort efface le nom de Noirtier pour se réinventer en serviteur zélé de la Restauration. Oui. Même chose pour Morcerf, qui au départ est un pêcheur catalan, Fernand Mondego, qui ensuite va acheter et gagner, notamment par la trahison et par les armes, va gagner une noblesse, devenir pair de France. Alors le seul qui ne réinvente pas son nom, c'est Danglars, qui lui est une sorte de version, dégradée ou à nu de cette ambition libérale, puisque lui va être toujours aussi méprisable, mais juste devenir beaucoup, beaucoup plus riche. Donc lui ne changera pas de nom. Et la problématique rebondit à la fin du roman avec Albert, le fils de Fernand, qui décide de changer son nom. Apprenant la trahison de son père vis-à-vis de Monte-Cristo, il va décider de prendre le nom de sa mère, de Mercedes, pour se faire un nom, pour se réinventer en tant que soldat, en s'engageant dans l'armée. Donc cette problématique-là, elle se diffracte dans à peu près tous les personnages principaux du roman.
Alors la grande différence, on va y revenir, avec Julien Sorel, c'est que le comte de Monte-Cristo, il va pratiquer une vengeance à la fois magnifique et par rapport à laquelle il est lui-même divisé. Il y a des drôles de choses qui percent, des affects non prévus qui le dérangent. Donc c'est une vengeance à la fois magnifique et en demi-teinte pour ses échos intérieurs. On va y revenir. Je voudrais qu'on parle de Balzac tout de suite, parce que on croit souvent, on n'a pas tout à fait tort, que Balzac est fondamentalement un monarchiste. Ça aurait dû bien lui convenir, la Restauration. Bon, la vérité, c'est que il trouve quand même, lui aussi, qu'il y a une grande médiocrité dans toute cette période. Et il y a un personnage dans une nouvelle de 1840, Z. Marcasse. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais j'ai trouvé cette citation chez Michel Guérin, justement, qui est avec nous, où un personnage dit qu'on est dans un système de flouterie dont il faut souhaiter qu'il soit renversé le jour où la jeunesse surgira, comme en 1790. Andrea Del Lungo, c'est pas Balzac, c'est un de ses personnages, mais ça dit beaucoup.
Oui, évidemment, la figure de Napoléon exerce un attrait formidable chez Balzac, mais en même temps, l'histoire a fait son cours. Et après la Restauration, et surtout avec la monarchie de Juillet, c'est l'époque à laquelle Balzac écrit son grand œuvre, on entre dans un moment de triomphe de la bourgeoisie. D'ailleurs, Louis-Philippe est le roi bourgeois, comme on l'appelle, qui impose donc une vision très matérialiste et surtout mesquine. Donc Balzac parle effectivement de médiocratie. Alors, est-ce qu'on peut encore rêver d'héroïsme dans ce panorama nouveau? Est-ce qu'on peut se poser la question, effectivement, d'être héros? Ce que Balzac, évidemment, a une réponse complètement négative et en même temps ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a la fascination du héros qui arrive à imposer du bâtard, qui arrive à imposer sa volonté. Et l'exemple, bon, il y a plusieurs exemples, tous les ambitieux.
Développer un peu. On va rester un peu sur Balzac, puis on reviendra à Alexandre Dumas et à Stendhal.
Il y a plusieurs héros, évidemment, qui incarnent l'ambitieux qui, de province, monte à Paris à la conquête. Et voilà, à nous deux, Paris, le cri lancé par Rastignac du Père Lachaise. Mais il y a aussi un personnage comme Vautrin, qui est peut-être le personnage plus complexe, le personnage principal à certains égards de la comédie humaine, qui est un ancien forçat, un bagnard, mais qui arrive par le travestissement, par les changements d'identité qui sont possibles maintenant dans cette société qui n'a plus la fixité de l'Ancien Régime, dans cette société mobile. Et il arrive donc à des multiples transformations, à se devenir bourgeois, se transformer en abbé, et finalement à traverser toutes les classes sociales jusqu'à l'entrée dans la police. Parce qu'il connaît tellement bien les mécanismes du crime qu'il peut devenir chef de la police. Donc, bon, il y avait un exemple dans la réalité, c'était Vidocq. Donc, il reste quelque chose de cet héroïsme possible, et en même temps, cette époque est définitivement morte si l'on en croit les personnages qui l'incarnent, c'est-à-dire le cousin Ponce ou le colonel Chabert, les survivants de l'Empire.
Parce que le problème de la vengeance, alors, en termes d'idées, il faudrait redorer cette époque, venger sa disparition, ce qui reste peut-être de la grandeur napoléonienne, même si voilà, Balzac n'a pas adhéré à tout, mais il a reconnu cette grandeur. Ce problème-là, bon, si on prend des jeunes héros, on en a parlé nous dans cette série, Lucien de Rubempré, vous venez d'évoquer Rastignac, ils sont différents, mais enfin, il y a quand même quelque chose d'un peu petit peut-être par rapport à l'enjeu que nous venons de dire. Bon, ils veulent réussir dans le journalisme, dans les salons. Et du coup, il y a une espèce de médiocrité qui marque ces personnages, alors que on aurait pu penser qu'il y aurait de la grandeur. On est d'accord qu'il y a quelque chose d'un peu petit que Balzac veut nous montrer.
Totalement. Il y a un texte, on ne va pas dire roman parce qu'il est assez court, c'est La fille aux yeux d'or, qui est entièrement autour du thème de la vengeance, sachant que la vengeance est partout chez Balzac. Tous les personnages ont un esprit de vengeance à plusieurs, suivant des processus qui sont différents. Et dans La fille aux yeux d'or, donc le personnage principal, c'est Henri de Marsay,
qui va avoir un bâtard, n'est-ce pas ?
Un bâtard, absolument. Il est le fils naturel d'un lord anglais, ouais. Lord Dudley, donc il n'a même pas le nom de son père. Hein. Il a été ensuite recueilli par le comte de Marsay. Donc, c'est un bâtard dont la duplicité est immédiatement montrée. Il a aussi un caractère, des traits de féminité. Donc, il est vraiment un entre-deux social aussi. Et Henri de Marsay voudrait se venger de la fille aux yeux d'or, donc de Paquita, cette magnifique jeune femme qu'il courtise et qu'il arrive finalement à avoir, mais qui est esclave de quelqu'un qui la protège et qui la rend captive. Et de Marsay se trompe complètement sur l'identité du patron de Paquita, parce qu'il décode le monde selon des critères anciens, c'est-à-dire la jeune fille doit certainement être la maîtresse d'un vieux noble.
Voilà.
Et en fait, la scène finale nous montre que Paquita est la maîtresse de la femme, d'une femme, de la femme du marquis de Saint-Réal, de la marquise de Saint-Réal, qui n'est autre que la sœur, la demi-sœur de Marsay, c'est-à-dire la fille toujours de Lord Dudley, qui avait semé des enfants un peu partout, et qui se venge, elle, de Paquita, en découvrant l'infidélité que la jeune femme lui a faite.
Et lui n'arrive même plus à se venger.
Mais non, c'est ça le
problème. Ça lui coûte tous ses effets, on pourrait dire.
Ouais. C'est exactement ça le problème, c'est qu'il se rend chez Paquita, en fait, pour la tuer, parce qu'il a compris qu'il était à la place de quelqu'un d'autre, que Paquita l'utilisait presque comme un jouet érotique, un objet de substitution, de remplacement de quelqu'un d'autre. Mais au moment même où il arrive avec un autre des 13, ces hommes qui appartiennent à une société secrète, au moment où arrive chez Paquita, voilà que la marquise est rentrée de Londres et a massacré avec une cruauté parfaite cette pauvre jeune fille. Et le narrateur balzacien qui dit que la vengeance de la marquise avait été longuement méditée. Donc c'est à la fois une vengeance passionnelle, mais aussi une vengeance parfaitement calculée, telle que peuvent la pratiquer beaucoup de personnages balzaciens. On sort du paradigme de la passion, ou de la vendetta corse, il y a un texte qui s'intitule « La vendetta », pour entrer dans un autre modèle de vengeance, qui est un modèle aussi socialisé, mais qui est un modèle de vengeance froide.
Donc c'est ambigu, on ne sait pas s'il admire cela ou s'il nous en dénonce le pathétique. Alors, peut-être que la vengeance chez Balzac, la grande, celle qui intéresse Julien Sorel, et peut-être aussi Edmond Dantès, c'est celle des pères, ceux qui ont connu Napoléon, ceux qui ont été des grands soldats de Napoléon, le colonel Chabert, qu'on a cru mort dans une bataille et qui revient. Va-t-il se venger? Il voit que sa femme l'a complètement oublié et remplacé. C'est terrible. Et justement, on va voir comment Balzac traite ce personnage. Je vous propose d'écouter un extrait du Colonel Chabert réalisé par Yves Angelo et sorti en 1994 avec Gérard Depardieu dans le rôle du Colonel Chabert qui est chez son avocat incarné par Fabrice Lucchini.
À notre époque, il suffit de pousser la porte d'un homme de...
En guenille, monsieur, on ne pousse guère de porte sans que jaillissent les chiens ou les gendarmes. Et comment engager un procès sans déposer un paquet d'argent sur la table? Vous devriez savoir ça, vous.
Oui, mais procès, quel procès? À qui? À l'armée russe?
À ma femme! Vous avez dit son nom tout à l'heure. La comtesse Ferraud n'est-elle pas ma femme? Sa fortune est grande. Elle vient de moi. De moi. Seul.
Vous disiez avoir écrit à la comtesse Ferraud.
4 depuis la Prusse, 2 autres depuis mon retour. Bon, je me dis, la poste les aura perdus. La dernière, Boutin la lui remet en main propre et elle la déchire sous son nez. Sans lire, comprenez-vous? Sans lire! Elle me tue à nouveau! Sans lire, elle me tue!
Calmez-vous, je vous en prie.
Je lui ai gagné. C'est une maison que j'ai payée plus de 100 000 francs. Avec les tableaux. Les meubles. Qu'elle ne m'ait pas reconnu avec ma face de Requiem, bon, oui. Mais depuis, voyez-vous, monsieur, j'ai été enterré sous des morts. Et aujourd'hui, on veut m'enterrer sous des vivants.
Enterré sous des vivants, c'est bien cela. Michel Guérin, vous écrivez à propos du colonel Chabert que c'est la figure du vieux soldat qui survit misérablement à une mort officielle. C'est pas reluisant? C'est troublant, c'est
oui,
triste.
Mais ça montre une chose, en effet, c'est que l'époque des héros est terminée. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'ambition? C'est d'une certaine façon la gloire en deuil. C'est-à-dire qu'il faut trouver une grandeur qui ne peut plus être, compte tenu de ce qu'est devenue l'époque, en particulier sous la monarchie de Juillet, qui ne peut plus être une grandeur militaire, une grandeur héroïque. Et c'est la raison pourquoi ce qui me frappe dans tous les romans de Stendhal, c'est que la question est un petit peu déviée.
Oui.
Ce n'est plus comment être grand, c'est que suis-je? C'est la question même que pose Lucien Leven. Il ne dit pas qui suis-je. Vous voyez, la question n'est pas une question psychologique. La question est la question du matériau humain. Qu'est-ce que c'est qu'un individu? Et la réponse de Stendhal, et on voit bien combien la proposition de Léon Blum disant que chez Stendhal, seule la sensibilité est ambitieuse, combien cette proposition est vraie. Parce que ce qui compte en effet chez Stendhal, c'est pas d'avoir, c'est pas de pouvoir, c'est pas de posséder, c'est pas de parvenir, c'est pas de réussir. Ce qui compte, c'est d'être d'une certaine façon en accord avec sa conscience, en accord avec soi-même. C'est-à-dire, au fond, il s'agit de réinventer la subjectivité.
Oui, le fantasme, parce que vous... Pardon, mais vous avez une très belle phrase. Hein, je crois que c'est dans La Grande Dispute où vous dites, finalement, la question de l'ambition et de la vengeance et de l'invention de soi a été déplacée par Stendhal. Chez Balzac, c'était dans l'ordre du faire, et chez Stendhal, dans l'ordre du fantasme. Et c'est beaucoup plus libérateur, finalement, l'ordre du fantasme.
C'est l'ordre du fantasme et de l'imaginaire. Mais si vous le permettez, je reviendrai tout à l'heure sur la question de la vengeance. Oui. Parce que la vengeance, ça suppose aussi la colère et ça suppose aussi la justice. Il n'y a pas de vengeance sans un rapport avec la justice. Bien entendu, ce rapport est un rapport torve. C'est un rapport qui ne convient pas, qui est vicieux. Mais en même temps, on ne peut pas concevoir la vengeance sans la justice. La meilleure preuve, c'est qu'on dit de quelqu'un qui se venge qu'il se fait justice. Or, se faire justice, ça veut dire faire bon marché du juge, de l'arbitre et des témoins.
Oui. Et on va parler de cette fin du Rouge et Noir, ne vous inquiétez
on
pas.
On va en parler tout à l'heure, effectivement.
Je vous en prie. Non, c'est parce que, évidemment, on a parlé du Colonel Chabert, mais je voudrais quand même entendre le spécialiste de Balzac sur ce personnage. Est-ce que vraiment Balzac l'a voulu pathétique, d'après vous, Andrea Dallongo?
Oui, je le pense, parce que c'est un survivant d'une autre époque qui n'est plus. Et donc, qui n'a plus aucune place dans la société actuelle. C'est un peu le sens même de ce retour à la vie de Chabert, qui n'a plus la même valeur dans une société, effectivement, où ce qu'on propose à Chabert, c'est une transaction. Et c'était le titre, d'ailleurs, le premier titre de ce roman était La Transaction.
C'était le premier titre.
Le premier titre, et c'est ce que Derville lui propose, c'est-à-dire, même dans cet extrait, c'est-à-dire, bon, il faut éviter un procès, de toute manière, on n'est pas sûr de le gagner, vous n'avez plus de droit auprès de votre femme qui s'est remariée, qui a eu des enfants, le juge va peut-être considérer que la femme a plus de droit de mener sa vie. Et tous ces raisonnements auxquels Chabert répond par... La question, enfin, l'affirmation d'une identité forte, de dire, mais moi, je suis le soldat de Napoléon, le général de Napoléon qui a gagné des batailles. Je suis en vie, je veux que mes droits soient respectés. Et sauf que cela n'est pas possible, parce que même la loi, même la justice propose plutôt une transaction. Donc, c'est une forme de compromis. Et c'est ce compromis-là qui n'est pas pertinent, qui n'est pas envisageable même pour le vieux militaire qu'il est, qui
génération est... des pères, la quelque chose est fini, c'est ça que nous dit.
Absolument, mais d'ailleurs Balzac n'a jamais réussi à écrire la bataille. C'est-à-dire, il a rêvé pendant toute sa vie d'écrire un roman qui s'intitulerait « La bataille ». Et évidemment, c'était l'une des grandes batailles de Napoléon, Wagram ou Essling. Et il y rêve, il ouvre même une série dans la comédie humaine qui s'intitule « Scène de la vie militaire » et qui reste désespérément vide. Et de ce texte qui s'intitule « La bataille », il ne reste que trois mots, c'est-à-dire une date. Et c'est la date de la bataille d'Essling.
Alors, nous parlons ce matin, je le dis à nos auditeurs qui viendraient peut-être d'allumer leur radio ou leur iPhone, que nous parlons de la vengeance toute la semaine, très riche thème. Et ce matin, nous en parlons comme d'un parcours initiatique et un parcours héroïque. Je suis en compagnie d'Andrea Dallongo, spécialiste de Balzac, de Michel Guérin, spécialiste de Stendhal, et de Caroline Juliot, spécialiste d'Alexandre Dumas. Et maintenant, je voudrais qu'on parle d'Edmond Dantès, par rapport à ce qui vient d'être dit, tant sur Stendhal que sur Balzac. Il y a du Stendhal, un peu, dans Edmond Dantès, me semble-t-il, dans l'idée, notamment, que la vie est tout autre chose que ce qu'on a appris, et qu'il faut désapprendre, il faut une contre-éducation. C'est ce qui plaisait tant à Julien Gracq chez Stendhal et à Miguel Abensour aussi, qui insiste beaucoup là-dessus. Tout ce qu'on croyait vrai n'est plus vrai. Au cachot, pendant toutes ces années, il a compris qu'il fallait jouer d'autres règles. Ça, c'est stendhalien. Mais il va se faire prendre à son propre piège. Un petit peu, non, Caroline Guillot, il ne va pas tout contrôler.
Ah non, et justement, c'est peut-être là le, ce qui fait de ce roman un roman absolument, un roman que je trouve passionnant, c'est que on n'est pas du tout dans ce roman dans quelque chose de très naïf, justement, avec une figure de surhomme qui serait absolue et qui parviendrait à être cette espèce de figure quasi divine, donc vraiment héroïque au sens presque étymologique. Il affirme qu'il peut contrôler le hasard, qu'il peut tout prévoir. Et en fait, au fur et à mesure, il se laisse complètement déborder jusqu'à réévaluer petit à petit tout ce qu'il avait cru, toutes ces règles qu'il s'était reconstruites et qui l'aidaient à tenir. Et ce roman, c'est autant l'histoire d'une vengeance que l'histoire du renoncement à la vengeance. Parce que finalement, il ne va pas la mener jusqu'au bout. Il va...
Et elle
finir,
va pas lui donner satisfaction.
Elle va pas. Alors, pour moi, la plus belle scène du roman, c'est celle du duel qui n'a pas lieu entre Albert, donc le fils de Fernand, et le comte de Monte Cristo. Donc Albert provoque en duel avant de savoir ce qui s'est passé. Également, il comprend que Monte Cristo essaie de perdre la réputation de son père en révélant la trahison de Janina. Et il le provoque en duel, mais ce duel n'a pas lieu. Et il va arriver en s'excusant, en disant « Je refuse de me battre, j'ai compris, maintenant je sais ce qui s'est passé, c'était vous la victime, vous avez bien fait de vous venger. » Et Monte Cristo se rend compte à ce moment-là qu'il est beaucoup plus heureux qu'il n'a jamais été, beaucoup plus heureux que tout ce que sa vengeance, donc la destruction de ses ennemis, pourra lui apporter. C'est une forme de réparation, mais... Ce qui est très subtil dans le roman, c'est que c'est pas une réparation absolue. Et Albert le dit tel quel. Il dit, je vous serre la main. Enfin, là aussi, c'est approximatif comme citation. Je vous serre la main parce que nous ne pourrons jamais être amis. La réparation n'est jamais absolue. Nous ne pourrons jamais être amis, mais j'espère que nous pourrons vivre ensemble comme deux êtres qui s'estiment.
Alors, on va revenir sur ce moment important. Alors, dans le film récent, il y a quelques adaptations, mais on va comprendre. Là, il s'agit donc du film d'Alexandre de la Patellière et de Mathieu Delaporte de 2024, avec Pierre Ninet, dans le rôle du comte de Monte Cristo. Il se fait interpeller gravement par notamment cette jeune fille qui est amoureuse d'Albert. Écoutez.
Vous n'avez donc aucune pitié?
Et eux, en ont-ils eu pour Edmond Dantès? Regarde-moi, je ne suis plus que le bras armé de la sourde et aveugle fatalité.
Si vous tuez Albert, vous ne pourrez plus dire « Dieu est pour moi, Dieu est avec moi ». Vous serez un assassin.
Il est écrit dans la Bible que les fils paieront pour les crimes de leur père.
Écoutez maintenant la manière dont Mercedes, cette femme qu'il a aimée et dont Albert est le fils, lui parle. Elle lui parle un discours de vérité. Elle lui prononce un discours de vérité. C'est très troublant pour Edmond Dantès.
Madame, que faites-vous ici?
Edmond, tu ne tueras pas mon fils.
Quel nom avez-vous prononcé?
Le tien. Edmond, ce n'est pas Madame de Morcerf qui est devant toi, c'est Mercedes.
Je ne connais personne de ce nom.
Je t'ai reconnue à la seconde où je t'ai vue. Et même sans te voir, j'aurais reconnu ta voix. Ma raison luttait, mais mon cœur savait. Depuis ce jour, je te suis, je te regarde. Je cherche à comprendre ce que tu manigances avec Morcerf.
Fernand, vous voulez dire, madame? Puisque nous nous rappelons nos prénoms, rappelons-nous les tous.
La coupable, c'est moi. C'est moi qui manquais de force face à ton absence et à ma solitude. C'est moi qui manquais de foi à l'annonce de ta mort. Moi.
Mais pourquoi? Pourquoi étiez-vous seul? Pourquoi étais-je absent? Pourquoi m'a-t-on arrêté? Pourquoi m'a-t-on donné pour mort? Pourquoi?
Je l'ignore.
J'imagine qu'il ne vous écrit plus de lettres d'amour. Et je pense que vous reconnaîtrez aisément son écriture. Voilà ce que ton mari a écrit à Villefort, il y a 20 ans. Il faut que je me venge, Mercedes. Il le faut.
Alors venge-toi, Edmond. Mais venge-toi sur les coupables. Venge-toi de Fernand qui t'a trahi. Venge-toi de moi, mais épargne Albert.
Que veux-tu, Mercedes? Tu veux que ton fils vive. Il vivra.
Caroline Julliot, vous qui connaissez très bien cette œuvre d'Alexandre Dumas, c'est comme s'il était débordé, là, le bon comte de Monte Cristo, dans le registre même de la force d'âme, du discours de vérité, de la flamboyance, d'une part par deux jeunes gens amoureux, et d'autre part par la femme aimée. C'est terrible.
Dans le roman, il y a d'autres épisodes qui vont renforcer. En fait, tout ce parcours initiatique du comte de Monte Cristo, ça va être une série de déflagrations, mais beaucoup moins qui vont à l'encontre de cette volonté très forte qu'il mûrit à partir du moment de sa captivité, cette volonté de se venger et qui donne un sens à sa vie. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la scène que vous avez qu'on vient d'entendre avec Mercedes. Il lui dit « Mais si je suis comme un dieu qui a créé un monde, c'est ça qui me fait vivre. Et si je renonce à ma vengeance, il ne me reste plus rien. » Enfin, là aussi, il le dit pas exactement comme ça, mais l'idée est là. C'est-à-dire que la vengeance à la fois fait vivre, mais alors Michel Guérin parlait tout à l'heure du rapport entre justice et vengeance. Le problème de la vengeance, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. C'est le problème de la vendetta corse. Oui. C'est qu'elle n'a pas de, elle n'a jamais de fin. Et tout le roman va être une suite de prises de conscience émotionnelles où il s'aperçoit que sa vengeance atteint et fait mal à des innocents.
Et tue un enfant, notamment, donc, qui est plus jeune d'ailleurs dans le roman que dans le film.
Manque de tuer la fille de Villefort, dont est amoureux Maximilien Morel, qui est un de ses seuls alliés, un de ses seuls amis, un personnage qu'il aime comme son fils, Albert, évidemment. Et là où il se renforce dans sa décision avec l'idée que les fils peuvent payer, puisque c'est dans la Bible, peuvent payer pour les fautes des pères, il se rend compte que, comme dit l'extrait, il ne peut pas prétendre que là, il fait œuvre de justice. Et donc, ce moment-là est une série de remises en question très brutales qui vont l'amener petit à petit à abandonner. Et à faire grâce, finalement, au pire de tous, à celui qui est le plus coupable. Et l'aboutissement de la vengeance de Dantès, c'est une grâce, mais une grâce que le lecteur, justement, pourrait estimer un peu injuste. Et une grâce qui se fait, d'ailleurs, dans l'adaptation avec Jacques Weber, finalement, c'est devenu cette vengeance, c'est devenu un poids trop lourd pour moi. Finalement, il ne fait pas grâce parce qu'il pense que c'est juste ou que c'est plus juste que de se venger de Danglars, c'est parce qu'il se rend compte qu'il ne vit plus. Il ne vit plus que pour ça et donc il ne vit plus. Et le parcours initiatique, c'est aussi essayer de passer à autre chose.
C'est une mise en échec terrible, mais sur fond de grandeur, c'est ça. Peut-être que c'est ce qui manque chez Balzac. On n'a pas de personnage comme le comte de Monte Cristo, me semble-t-il. Enfin, c'est vous qui savez, Andrea Del Longo. C'est très long, grand, la comédie humaine. Mais il ne prête jamais assez de grandeur pour pouvoir créer cette mise en échec terrible, oui. Me semble-t-il, non ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Chez Balzac, en fait, tout est double. C'est lui-même qui le dit à propos de la vertu dans la Cousine Bette. Même la vertu serait double. Et certains titres, d'ailleurs, de textes nous montrent bien cette duplicité et cette impossibilité, finalement, de la grandeur. C'est la grandeur et décadence de César Birotteau, qui est parfumeur. C'est évidemment Splendeur et misère des courtisanes, où l'élément de grandeur est toujours associée à ce qui pourrait représenter évidemment son envers et sa chute. Alors, l'aventure de Chabert, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure et au caractère pathétique du personnage, pourrait aussi se lire d'une autre manière, parce que il est pathétique si l'on adopte le point de vue du personnage lui-même. Mais si l'on adoptait le point de vue du reste du monde, à partir de la première scène où on est dans l'étude d'un notaire, et c'est les clercs de notaire qui se jouent de lui, ce personnage est en fait profondément caricatural.
Oui, il y a donc... il est presque comique, alors c'est affreux.
Voilà, exactement.
Bon, mais je crois qu'on a... Je voudrais qu'on donne quand même son temps à Julien Sorel, avec lequel j'ai ouvert l'émission, et puis ça ne nous empêchera pas de refaire quelques liens avec les autres univers romanesques dont nous parlons ce matin. Alors pour Julien, le problème dans le Rouge et Noir, c'est qu'il y a quand même un acte, hein, il n'y a pas que des fantasmes, mais un acte incroyable. Il va tirer donc un coup de pistolet, même plusieurs, sur Madame de Rênal, cette femme tant aimée, qui a écrit au marquis de La Mole que ce mariage futur de Julien avec sa fille, conduisait sa fille à épouser un être ignoble, semble-t-il. On écoute le passage du roman de la vengeance par rapport à cette lettre de Julien sur Madame de Rênal.
Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis », se disait-il à lui-même. « Physiquement, je ne le puis ». En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête, qui un instant se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba.
Et puis, il sait qu'il va être guillotiné. Julien, il vit des heures très belles et très douces avec Madame de Rênal qui n'est pas morte. Il doit simplement prévenir Mathilde La Mole.
Il me reste un ennuyeux devoir à remplir, pensa Julien. Il faut écrire à Mademoiselle de La Mole. Je me suis vengé, lui disait-il. Malheureusement, mon nom paraîtra dans les journaux. Et je ne puis m'échapper de ce monde incognito. Je mourrai dans 2 mois. La vengeance a été atroce, comme la douleur d'être séparée de vous. De ce moment, je m'interdis d'écrire et de prononcer votre nom. Ne parlez jamais de moi, même à mon fils. Le silence est la seule façon de m'honorer. Pour le commun des hommes, je serai un assassin vulgaire. Permettez-moi la vérité en ce moment suprême. Vous m'oublierez.
C'est très troublant, Michel Guérin, parce que c'est pas rien quand même. Il tire sur la femme aimée. Bon, elle n'est pas morte. Et puis, il y a quelque chose de paisible à la fin, comme si tout le fantasme avait été accompli. L'une va lui pardonner. Madame de Rênal vivra pour me pardonner, dit quelque part Julien. Et puis, Mathilde, qui est enceinte de lui, elle l'oubliera. Que de certitude ! Aucune angoisse !
Aucune angoisse, c'est vite dit. N'oublions pas que Julien se dit un moment qu'il se trouve au bord de ce qu'il appelle le grand peut-être, c'est-à-dire la mort, dont on ne sait pas très bien ce qu'il en attend. Est-ce que ce sera pour lui une rédimation, une rédemption, ou bien est-ce que ce sera au contraire la fin de toute chose ? Quoi qu'il en soit, je crois qu'on ne comprend cette vengeance, la double vengeance d'ailleurs, la vengeance de Madame de Rênal d'une certaine façon.
Oui, bien sûr.
Oui, il y a deux vengeances. Oui. Formellement, il y a deux vengeances, mais je vais y venir. Mais je crois qu'on ne peut comprendre cette vengeance que si on la resitue justement dans un parcours initiatique. Or, il se trouve que ce parcours initiatique, il écartèle la vengeance, il la casse en deux. D'un autre côté, vous avez la forme de la vengeance. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la vengeance est la vendetta. Lorsque quelqu'un est offensé, il répond. Et il répond en enchérissant. C'est-à-dire qu'il commet à son tour un acte malveillant ou même un meurtre, un crime vis-à-vis de la personne qui l'a offensé. Donc, dans la forme, c'est sans fin,
oui.
La vengeance. Mais dans le fond, il n'en est pas ainsi. Le fond contredit la forme. Parce que finalement, Madame de Rênal, comme Julien, n'ont qu'une hâte et qu'un souci, disculper l'autre. On voit Madame de Rênal qui a écrit cette lettre dictée par son confesseur. D'ailleurs, lorsqu'elle écrit ensuite plus tard au juré pour défendre la cause de Julien, elle dit « Quelle horreur la religion m'a fait commettre, quel aveu !» Et d'un autre côté, à peine Julien reçoit-il dans sa prison la visite de Madame de Rênal, il en est, dit-il, à travers le remords le mot est dans le texte, à travers le remords, il en est en vérité, c'est ça qui compte, éperdument amoureux. Donc on retrouve bien le parcours initiatique dans lequel la vengeance a joué un rôle, je dirais presque étourdi. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans cette fin de roman, c'est à quel point elle est précipitée.
Oui,
autant Stendhal s'attarde longtemps dans la bibliothèque de la Mole, au séminaire, etc., etc., avec les fantasmes de Julien et de Mathilde, autant la fin du roman, les événements qui font la fin du roman, donc en gros la vengeance, c'est l'affaire de quelques pages. Ça veut dire qu'au fond, elle est expédiée, la vengeance. Elle est expéditive. Donc en réalité, c'est pas une vraie vengeance. Parce que comme on dit, comme le dit le sens commun, non sans raison, la vengeance est un plat qui se mange froid. Or, si Julien revendique son crime en disant, le mot est dans le texte, qu'il l'a prémédité, c'est parce qu'il choisit de mourir. C'est parce qu'il met sa mort, il jette sa mort à la face des jurés et par conséquent à la face de la société de l'époque. Mais pas du tout, parce que effectivement il reconnaît que dans le fait, son acte fut prémédité. En réalité, c'est un acte, je dis étourdi. Je ne trouve pas d'autre mot, parce que dire que c'est un acte passionnel, c'est trop dire. Dire que c'est un acte prémédité, c'est faux. Et donc, entre les deux, je dirais qu'il y a eu cette forme. Hein.
Vous dites autre chose encore.
Je retrouve la différence entre le fond et la forme.
Pardon, mais moi qui vous ai lu, vous dites encore autre chose. Vous dites qu'à ce moment-là, Julien accomplit le fantasme de Mathilde de la Mole, de l'amour de tête,
et c'est
d'où
vrai.
La paix intérieure. Il est celui qui va se faire couper la tête. Enfin, d'ailleurs, il ne peut être son amour accomplissant complètement le fantasme qu'en mourant, qu'en étant, vous dites-vous d'ailleurs explicitement, sacrifié.
Absolument. Et je crois que ce qui est très très important, on parlait d'héroïsme du passé, ce qui est très très important, c'est que le véritable thème du Rouge, mais peut-être aussi d'autres romans de Stendhal, c'est le thème de la rénovation, c'est le thème de la Vita Nuova. Je dirais que j'hésite un peu à employer le mot parce que Stendhal est très très loin de l'occultisme, mais il y a un hermétisme du Rouge et le Noir, c'est-à-dire Hermès, hein, le Hermès Trismégis, trois fois très grand. Qu'est-ce que c'est que l'hermétisme? C'est le fait de convertir le plomb en or, c'est de faire d'un vil métal le métal le plus précieux. Or, l'hermétisme, c'est tout simplement le fantasme de Mathilde et de Julien conjugués. Comment devient-on un personnage qui n'a rien à voir avec le plébéien, avec le paysan révolté du début du roman? Comment est-on maître de sa vie? Comment choisit-on son être? Comment devient-on, comme disaient les Grecs, devient-on ce qu'on est en le voulant? Voilà le véritable thème du roman. Et si vous me permettez encore un mot,
je voudrais
faire un parallèle avec Dumas.
Bah justement, avec ça tombe Dumas. Bien, Caroline Julliot va vous répondre. Après, elle voudrait prendre la parole aussi. Oui.
Alors, j'en ai pour une
seconde.
Non,
mais je vous en prie.
En l'espèce, avec le dernier roman écrit par Dumas, qui a été réédité comme un inédit récemment par les soins de Julie Anselmini, qui s'appelle « Création et rédemption ». Dans ce texte très long, il y a deux parties. La création, la rédemption. Qu'est-ce que c'est que la création? C'est l'histoire d'un médecin occultiste, d'un médecin alchimiste, et cependant homme des Lumières à sa manière, qui s'appelle Jacques Méret, qui trouve une enfant sauvage, une enfant perdue, une sorte de loque humaine de quelques années, 4 ou 5 ans, et il va en faire une femme accomplie, ne sachant pas qu'elle est la fille d'un noble qui l'a abandonnée. Et il va bien entendu en tomber amoureux. Donc c'est l'idée il y a un pygmalionisme là-dedans. Vous voyez, c'est l'idée qu'on peut créer un être, l'être qu'on veut, pourvu qu'on y mette de l'amour. Et puis deuxièmement, la deuxième partie, elle est sous le signe de la Révolution, puisque Danton est l'ami du médecin. Donc vous avez exactement les mêmes personnages, les mêmes paradigmes chez Stendhal. Rénovation de l'individu, révolution sur le plan politique. Les deux sont liés.
Merci. Pardon, le fait que vous soyez à distance complique un tout petit peu. C'est pourquoi je vous ai coupé peut-être un moment qui n'était pas le bon. Caroline Julliot, je vous laisse répondre sur ce point et sur ce que vous voulez d'ailleurs.
Je voulais rebondir sur cette question de la vendetta corse qui va au-delà des simples représailles. La vendetta corse, donc, qui est représentée dans le roman par le valet de Monte Cristo, Bertuccio, mais qui est aussi mise en scène de façon extrêmement glaçante dans la nouvelle de Balzac, ça n'est pas seulement la vengeance ou le œil pour œil, dent pour dent. C'est la vengeance ad vitam aeternam, autodestructrice, qui ne s'arrêtera qu'à la fin, que quand il n'en restera plus aucun, qu'à la fin du dernier membre du clan. Donc c'est rester dans une logique complètement mortifère qui ne peut pas, à mon avis, prétendre à être un parcours initiatique, puisque de toute façon, elle est sans fin et elle se finit par la mort. Et justement, peut-être la vengeance peut être un parcours initiatique à partir du moment où ce paradigme est remis en question. À partir du moment où la vengeance essaie de donner la possibilité d'une survie et d'autre chose.
Peut-être que seul chez Stendhal, quelque chose transcende la vengeance à la fin et fait que on voit bien que c'est d'un autre sujet.
Pour ça, ce côté un peu apaisé, c'est peut-être cette idée que voilà, on peut passer à autre chose. Et c'est aussi mis en scène dans une nouvelle de Dumas qui s'appelle Les Frères Corses, où là aussi il y a cette idée que ce modèle de la vendetta, c'est un modèle qui ne permet pas de passer à autre chose.
D'en sortir.
Oui, ouais. Là où justement Dantès, il a cette figure où il passe en quelque sorte par la mort quand il s'écharpe du château d'If, il prend la place d'un cadavre et il renaît.
Oui.
Voilà, la possibilité de passer à autre chose.
André Delungo, vous allez avoir le dernier mot.
Et bien à propos justement de cette vendetta qui est le titre donc d'une nouvelle de Balzac écrite en 1830, qui appartient elle aussi au passé précisément, qui est datée comme l'Empire. D'ailleurs, les deux familles corses, Piombo et Porta, Bartolomeo Piombo, arrive à Paris pour chercher la protection du frère de Napoléon. Donc nous sommes vraiment dans cette histoire, dans cette époque qui s'est terminée et qui laisse maintenant d'autres possibilités de vengeance. Et j'aimerais terminer surtout sur une évidence, c'est-à-dire que chez Balzac, c'est l'histoire aussi du colonel Chabert, non pas seulement de la fille aux yeux d'or, la vengeance est du côté des femmes. C'est-à-dire
la médiocrité aussi, hein, parce qu'elle est gratinée quand même, la femme de Chabert.
Oui,
elle est calculatrice.
Qui essaie de mettre un holà, donc dans la nouvelle de Balzac, comme dans les frères Corse de Dumas, qui essaie de mettre le holà à la vendetta.
Oui.
Pour repasser à un autre mode, à une autre modalité de justice et ouvrir à une autre forme de vengeance.
Oui, mais les personnages féminins chez Balzac, maintenant il y en a tellement qu'on ne peut pas généraliser. S'ils sont parfois dans la vengeance, c'est parce que il faut effectivement se protéger d'une domination.
Oui.
Donc on vient à des questions qui sont très contemporaines, mais je trouve que on peut faire cette lecture du roman balzacien, c'est-à-dire de la femme qui se refuse finalement au pouvoir des hommes. Et la comtesse Ferraud, donc l'ex-femme de Chabert, est certes une rusée,
c'est le moins qu'on puisse
dire, mais elle renverse la vengeance de son côté finalement. Et elle réussit.
À quoi ça sert de grandir quand on est malheureux? Ma vision est limpide. Est-ce que tu voudrais t'enfuir? Regarde-moi dans les yeux. Ma colère est limpide. J'en ai vu des couleurs. J'ai plus la fonction peur. Supprimer les images. J'ai plus peur de l'orage. Je reboot mon système. Je suis prête pour la haine. Je l'accueille dans mon être. Quand y'a tout qui s'enflamme, comme les forêts, comme les livres, comme mon cœur qui s'effrite, comme ma peur, comme la terre, comme mon visage qui se déchire, comme les vaches de ma vie et comme celle de mon père, on revient des enfers pour se battre dans la guerre. J'ai encore toute la vie pour en avoir envie. Trop de trauma, trop de stress, je serai inquiète pour la vie. J'ai du courage, mais je suis frêle. Je me sens comme une bête qui se perd dans la nuit, sans repère, sans répit.
Vous écoutez Johanna, chanteuse française. Le titre de cette chanson et de l'album, c'est le même d'ailleurs, étant cependant en anglais, Where is the light? Mais la question de où est la lumière est au cœur de notre affaire, de même qu'elle parle beaucoup de vengeance sur cet album, puisque Stendhal disait qu'on était passé de la lumière à la boue après la Révolution française. C'était un petit clin d'œil. Merci beaucoup Andrea Del Lungo, Caroline Julio, Michel Guérin. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au style. Voici le pourquoi du comment.
Je sais de rester en vie.
Pourquoi parle-t-on de style de vie ? On a toujours tendance à minimiser l'enjeu de ce qu'on appelle le style dans la vie humaine. Pourtant, le style a bien quelque chose d'essentiel et l'idée même, au fond, de ce qu'il définit en premier lieu, c'est-à-dire d'une individualisation des techniques humaines, s'inscrit dans le mot même de style. On le sait, le style, ça désigne originellement le couteau, le joli couteau un peu tranchant avec lequel on peut tuer quelqu'un. C'est la pointe du stylet, c'est aussi la pointe du stylo avec lequel on écrit. Ainsi, on entend dans le mot même de style, l'idée qu'une technique humaine n'est jamais abstraite, absolue, générale ou neutre. Un couteau, c'est aussi une pointe, la pointe pointue avec laquelle on peut tuer quelqu'un ou bien écrire d'une manière singulière, trancher dans le vif du sujet. Le style, c'est une arme. Le style, c'est un enjeu absolument vital. On ne devrait donc pas être surpris que l'on parle de style de vie comme si la vie elle-même était une technique que les humains doivent, non pas le choix, mais doivent individuellement. La vie elle-même est en effet un objet que les humains doivent prendre en main, leur vie comme d'abord dimension morale, comme obligation de mener une certaine vie selon une certaine norme. Alors on parle de style de vie choisi selon des normes éthiques, mais aussi un style de vie dans la mesure où il n'y a pas de vie qui ne s'individualise, comme l'a montré Merleau-Ponty, qui naît ce qu'il appelle une physionomie. Chacun d'entre nous construit peu à peu non seulement des habitudes générales, ou selon le style d'une époque, mais aussi le style de sa propre vie. Et on peut dire d'ailleurs que le propre de la philosophie est de construire la vie comme manière de vivre et non pas comme vie en général, une technique individualisée selon des normes que l'on espère justes, bonnes, mais aussi qui auront quelque chose d'un spectacle que l'on donne aux autres. Le style est aussi la vie comme technique qui se montre, comme technique qui se reconnaît, car on entend toujours par style l'individualisation d'une pratique en tant qu'elle est reconnaissable par autrui. Il y a donc dans la notion de style de vie quelque chose de fondamental, peut-être même de plus précis, que dans d'autres notions qu'on entend beaucoup aujourd'hui utiliser, celles de forme de vie ou de jeu de langage. Non, ce ne sont pas des jeux de langage abstraits, simplement des catégories. Nos styles de vie sont aussi des pratiques individualisées et sociales qui se montrent les unes aux autres. D'où une forme de risque, bien entendu, c'est ce qu'on appellera le risque de l'esthétisation de l'existence. Même Michel Foucault, quand il a parlé du besoin d'esthétiser son existence, d'une esthétique de l'existence, a couru délibérément ce risque de ce qu'on appelle aussi traditionnellement le dandysme. Le dandy, c'est celui qui va être stylé, comme on dit aujourd'hui, comme si ça devenait une fin en soi selon des normes extérieures. Mais le fait de donner à sa vie une esthétique inséparable d'une éthique et d'une technique de la vie humaine, d'une technique qui fait de la vie humaine l'objet d'une création individuelle et historique, oui, cette question des styles de vie est bien entendu au cœur de la vie humaine et de tous ses enjeux les plus profonds qui soient.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Cassandre Puel avec à la technique Jean-Guilain Meige. Merci à France Bleu Provence, on dit maintenant ici Provence, et au technicien Ali Lamar. Cette émission a été préparée en particulier par Shai Magiboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Felpin, Carla Michel, Armance Bourquin, Antoine Ravon qui nous a aidés au moment de la programmation de cette émission et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.